Il est 6h02. Aujourd'hui, la météo, on parle d'alternance de soleil et de nuages. Ça va devenir nuageux en mi-journée. Ce sera suivi d'averses. Il va faire 25 aujourd'hui. Des averses qui vont se poursuivre au cours de la nuit prochaine, avec même un risque d'orage durant la nuit. Il va faire 16 degrés la nuit prochaine. Et demain, vendredi, ça ne remontera pas beaucoup parce que les averses vont cesser le matin. Il y aura ensuite alternance de soleil et nuages, mais le maximum demain est de 19 degrés seulement. C'est de loin la journée la plus froide depuis le début du mois de juillet. Et au cours de la nuit de vendredi à samedi, ce sera dégagé, va faire 13. Du soleil prévu pour samedi avec 24. Et oui, alternant soleil-nuage pour dimanche avec 25 degrés. Petit message paroissial. Il y a Michel qui nous écrit et qui dit « Bon matin à toute l'équipe, je vous écoute depuis la Thaïlande. » Imaginez, très agréable d'avoir des nouvelles de chez nous pendant ma quarantaine d'arrivée. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous, mon cher Michel, et à tous nos auditeurs, bien sûr, qui nous écoutent de l'étranger, puis ceux de Montréal aussi, on aime tout le monde. Bon, dans les différentes nouvelles qu'on retrouve dans les quotidiens ce matin, tout le monde parle, bien sûr, de la lettre de Jeff Molson hier. Jeff Molson a pris la parole hier en conférence de presse, mais tout juste avant, il avait publié une lettre pour expliquer le choix de Logan Mailloux lors du repêchage, c'était vendredi dernier. Alors il dit « J'aimerais partager avec vous ma perspective sur notre décision de choisir Logan Mailloux dans le cadre du repêchage. Cette décision prise dans le contexte du repêchage est instantanément devenue une décision qui a blessé plusieurs d'entre vous. » Et là il poursuit, il dit « Je comprends que vous vous attendez à plus de notre part et que nous vous avons déçus. Les gestes posés par Logan ne reflète en rien les valeurs de notre organisation et je veux m'excuser pour le grave malaise que cette décision a causé. D'abord et avant tout, considérant la jeune femme et victime de cette situation, je tiens à dire que nous ne banalisons en rien ce qu'elle a subi et continue de subir en raison de ses gestes. » Là, bon, ce qu'on dit, c'est qu'on veut accompagner la jeune femme en question et sa famille, etc. Et ensuite, qu'on prend des mesures pour réhabiliter, si on veut, Logan Mailloux. Alors, il dit « Au cours des prochains mois, nous mettrons de l'avant, avec l'aide d'experts sur le terrain, un plan détaillé afin de sensibiliser et d'éduquer nos jeunes hommes et jeunes femmes relativement à cet enjeu important. Nous utiliserons notre plateforme et nos ressources afin que cette décision qui en a blessé plusieurs apporte des changements véritables et significatifs. » Il dit un petit peu plus loin « Nous avons demandé à Logan de ne pas participer ni au camp des recrues, ni au camp d'entraînement cet automne. Jouer dans la Ligue nationale est un privilège et non un droit. Mais, ce qu'il dit par la suite, c'est qu'au cours de l'année, nous réévaluerons la situation et déterminerons si Logan est prêt à joindre l'organisation. » Autrement dit, non seulement on n'a pas écarté Logan Mailloux hier parce qu'on aurait pu renier ce choix-là puis dire « ben finalement, on ne le veut plus » et briser l'espèce de contrat moral qu'on a pris avec lui en le repêchant, mais on ne l'a pas fait. Non seulement on ne fait pas ça, mais on n'écarte pas qu'il puisse se joindre à l'organisation dans l'année. Et il faut attendre la dernière phrase, les derniers mots de la dernière phrase pour qu'il y ait une admission d'erreur de la part de Jeff Molson, propriétaire et chef de la direction du Canadien. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour atténuer, si on veut, mettre le couvert sur la marmite? Ben, je sais pas, on verra, on essaiera d'analyser tout ça aujourd'hui, mais je trouve que, d'abord, ça a pris du temps avant d'arriver, cette lettre-là, c'est presque une semaine après, là. Et donc, c'est une façon, si on veut, d'essayer de passer l'éponge et de repartir, de redorer l'image du Canadien. On verra si ça s'est bien passé, ce qu'en pensent les experts un peu plus tard. Et restons dans le sport, parce que ça, c'est intéressant comme commentaire dans le Journal de Montréal. On le dit depuis hier, là, les médailles qui ont été gagnées jusqu'à maintenant par le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo, ben, sont toutes des médailles féminines. Ce sont les femmes qui nous font honneur en ce moment à Tokyo, et c'est tant mieux. Et la championne olympique, Nathalie Lambert, dit que, en fait, elle n'est pas surprise du tout du triomphe des Canadiennes. D'une part, parce qu'il y a 60% des athlètes à Tokyo qui sont des femmes cette année. Et c'est un peu la même situation qu'on avait retrouvée aux Olympiques de Rio en 2016. 16 des 22 médailles avaient été raflées par les femmes cette année-là. Donc, c'est une très, très belle performance. Alors, on se dit tous, ben bravo, puis c'est super parce que il faut les supporter, les femmes, maintenant, mais c'est pas ce qui arrive dans la réalité. Ce qu'on apprend, c'est que les Olympiennes ne sont pas aussi bien supportées sur le plan des commandites, par exemple, que les hommes. Il semble y avoir moins de... je sais pas, les commanditaires semblent accorder moins de prestige aux médailles féminines qu'aux médailles masculines. On estime que les compétitions féminines occupent moins de 5 % de l'ensemble de l'espace médiatique dédié au sport au pays pour les femmes. Et les femmes reçoivent moins de commandites par rapport aux hommes. Et selon une récente étude de l'organisme Femmes et Sport du Canada, ben une jeune fille sur quatre ne compte pas renouer avec son activité sportive à l'issue de la crise sanitaire. Alors, si elles avaient plus de support, peut-être qu'il y aurait davantage de persistance. Et de manière générale, une adolescente sur trois va abandonner le sport qu'elle pratique entre l'âge de 16 à 18 ans. Si on compare avec les garçons, c'est 1 sur 10. Alors, les proportions sont complètement autres. Et c'est peut-être le manque de support. Il faudrait peut-être penser à supporter davantage. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait eu un débat sur... Le tennis, les bourses qui étaient offertes aux dames étaient moins élevées que celles des hommes. Alors, on trouvait que ça n'avait pas de bon sens parce que le prestige est aussi grand, puis l'effort est aussi important. Alors, on avait rectifié tout ça au niveau de l'ATP, mais quand même, il faut se battre toujours pour reconnaître l'excellence dans le sport des femmes qui, en ce moment, nous font très honneur, il faut bien le mentionner, aux Olympiques. Un prêtre pédophile en tôle. Alors, il s'agit du prêtre Jean Pilon de la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur qui a plaidé coupable hier à 12 accusations de grossière indécence au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Il a 79 ans. Il a reconnu avoir fait 12 victimes, mais on pense qu'il y en aurait beaucoup plus que ça parce qu'il y a un recours collectif en ce moment qui a été lancé et qui regroupe 360 personnes, dont 58 sont des victimes du père Pilon. Mais lui, il en reconnaît 11 des victimes. Alors hier, il y avait des témoignages extrêmement touchants, et donc de gens qui sont des victimes de ce prêtre-là, de Jean Pilon, et qui sont venus raconter les nuits blanches, les flashbacks, l'insomnie qu'ils ont depuis ces crimes-là qui sont survenus il y a longtemps, là. Il y a des gens là qui ont été victimes de lui quand ils étaient adolescents, puis maintenant ils sont rendus dans la cinquantaine. Alors, ce que faisait l'homme en question, c'est que lui, il était enseignant, puis il y avait une pièce à côté, il était animateur de pastorale. Puis, il y avait une pièce à côté avec un lit, puis il amenait les jeunes là, puis il les agressait sexuellement. Alors, tu sais, c'est effrayant. Et parmi les 11 victimes, il y a 9 d'entre elles qui ont raconté leur comment ils ont vécu par la suite. Il y en a un qui dit « J'ai fait des tentatives de suicide, dont une au collège. Je me suis auto-mutilé. J'ai fait des fugues. Quand je pense aux autres victimes, je me sens responsable. Peut-être que si j'avais dénoncé, on ne serait pas ici 30 ans plus tard. » Ça, la culpabilité, vous voyez, ça amène de la culpabilité alors que cette personne-là, pas à s'en vouloir de ça, elle était aux prises elle-même avec tous les problèmes engendrés par cette agression-là. Donc, mais il reste un sentiment de culpabilité de ces gens-là. Alors, bravo aux victimes d'avoir eu le courage de témoigner du traumatisme que ça leur a causé. Alors, puis il a pogné 42 mois. Alors, les victimes trouvent que c'est pas beaucoup compte tenu du calvaire qu'eux ont eu à subir dans leur vie personnelle durant toutes ces années. Vous savez, je vous ai parlé hier, puis on en a parlé cette semaine également en entrevue de ces pesticides qui font un retour dans l'actualité parce que Santé Canada propose d'autoriser jusqu'à 7 fois plus de traces d'insecticides, de fongicides, entre autres dans les framboises, les mûres, les bleuets sauvages et autres petits fruits qui arrivent bien souvent de l'extérieur du Québec. Et là, il y a des consultations qui se déroulent, puis Santé Canada dit, on pourrait peut-être augmenter ça, alors que tout le monde dit, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Faut les réduire, au contraire. Et là, on s'était rendu compte que, entre autres, il y a une demande qui venait de la multinationale Bayer, qui est propriétaire de Monsanto, qui est un fabricant de glyphosate, qui est un pesticide dont on sait qu'il est dangereux pour la santé. Et là, dans l'Estrie, Il y a des gens qui se demandent, des producteurs de petits fruits qui disent, ben voyons donc, comment ça se fait qu'on fait ça? Olivier Simard, qui est propriétaire de la ferme au Pré Bleu, comprend pas du tout la démarche qui est derrière Santé Canada. Il cherche, au contraire, à diminuer l'utilisation des pesticides dans les champs. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Eux autres veulent les augmenter, nous autres, on cherche à les diminuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Même son cloche de Richard Vera, qui affirme que nous, on n'a jamais demandé ça, ce n'est pas un besoin, mais on est en train d'accorder ça. Alors, à Radio-Canada, il y a un article intéressant ce matin qui vient jeter un peu de lumière sur l'origine de cette demande-là pour les petits fruits. C'est le fabricant Syngenta qui fabrique aussi des pesticides, qui est en arrière de ça, qui lui aimerait bien ça en vendre des pesticides. Tu sais, ces compagnies-là, ils cherchent à faire des profits. Alors, et ça viendrait des producteurs de bleuets de la Colombie-Britannique, parce qu'eux sont vraiment les plus importants producteurs de bleuets au Canada. Et donc, ils exportent leurs petits fruits vers chez nous. Puis, ils aimeraient bien ça, avoir davantage de pesticides dedans pour améliorer leur productivité. Alors, ça viendrait de là. Alors, voyez ce que disait Louis Robert il y a deux ans quand c'était sorti cette espèce de scandale-là? Eh bien, c'est vrai. Il y a des pressions qui sont faites sur les producteurs et même sur Santé Canada, sur les autorités, pour qu'on vende davantage de ces pesticides-là, alors qu'il y a d'autres méthodes qui fonctionnent pour limiter justement tous ces pesticides et ces produits chimiques qu'on met dans nos cultures. Ça fonctionne, mais c'est moins populaire parce qu'évidemment, il y a du lobby qui se fait de ces grandes multinationales. Un hôpital sur trois est dans le rouge depuis le début de la COVID. C'est ce que nous dit ce matin Héloïse Archambault dans le Journal de Montréal. La pandémie a frappé durement les finances dans le réseau de la santé, alors que le tiers des établissements a terminé la dernière année dans le rouge. On parle de déficit cumulé de 125 millions de dollars. Il y a 11 établissements de santé sur 34 qui ont terminé l'année financière en déficit. Les plus importants, là, je vais vous les donner. Le CHUM à Montréal, 29,6 millions dans le trou. Le 6 Abitibi-Témiscamingue est en deuxième place, 21,8 millions. Après ça, dans les autres importants, là, il y a, mettons, le 6 de la Côte-Nord, 18,3 millions. Le CUSUM, 16,9 millions. À part ça, le 6 de l'Est de Montréal, 12,1 millions. Le 6 du Nord de l'île de Montréal, 8,2 millions. Bref, ça totalise près de 125 millions de dollars de déficit. Alors, il n'y a pas juste, là, remarquez, la pandémie qui a amené ça. Il y a d'autres raisons aussi. Au CHUM, entre autres, où on obtient le pire déficit, on explique la situation par un manque de budget depuis l'ouverture du méga-hôpital. Alors, ils ont construit un gros hôpital, mais ils n'ont pas suffisamment de financement, en tout cas selon ce qu'ils disent, pour s'en occuper, pour l'administration. Ottawa, pendant ce temps, et ça fait toujours des étincelles quand Ottawa s'implique dans ce dossier-là. Vous vous souvenez, Terre-Neuve, à un moment donné, a dit, ben on va aller au Labrador, nous autres, il y a le fleuve Churchill, qui est un gros fleuve, puis on va construire un immense barrage qui s'appelle Muskrat Falls, et qui va permettre de produire de l'électricité pour les gens de Terre-Neuve, mais aussi pour l'exportation. Alors, ça va être parfait. On va faire comme le Québec, autrement dit, puis on va se financer avec ça. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de retards, puis ça a coûté il y a eu des surplus épouvantables, de sorte que le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador est en train de se mettre dans le trou avec le projet. La province est sur le bord de la faillite. On avait déjà accordé de l'aide qui venait d'Ottawa, de 8 milliards de dollars pour soutenir le projet de centrale là-bas. Or, c'était pas assez, donc on a décidé de rajouter 5,2 milliards là-dedans. Alors, Ottawa va verser 1 milliard en prêt pour le projet et 1 milliard en investissement dans la ligne de transport qui va permettre d'acheminer l'énergie produite à la centrale jusqu'à l'île de Terre-Neuve. Et il y a 3,2 milliards qui vont provenir des taxes qu'aurait normalement perçu le gouvernement fédéral sur les retombées du projet d'extraction pétrolière en mer Hibernia. Donc, on dit, ben au lieu de prendre l'argent, garder cet argent-là en taxes et donc financer votre projet avec ça. Alors, Justin Trudeau, lui, dit que ça va aider le Canada à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Mais en réalité, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que La province est en train de tomber en faillite, littéralement. Alors là, il y a la chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade, qui est en beau furie parce qu'elle dit « Financer à cette hauteur-là le projet de Muskrat Falls, c'est le fédéral qui finance directement, en fait, un projet qui vient en concurrence avec Hydro-Québec. Hydro-Québec a le plus important réseau hydroélectrique au pays et ça a été développé sans l'aide du fédéral. » Alors, il y a un petit peu une injustice, selon Mme Anglade, dans l'aide qui a été accordée justement au fédéral. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de la pandémie, alors je vais vous en parler maintenant. La vaccination contre la COVID-19 va bon train dans les cégeps et les universités. Tous les quotidiens en parlent ce matin. On devrait continuer à aller de l'avant avec le projet qui vise à ramener tout le monde en présentiel dans les cégeps et les universités à compter de l'automne prochain. Quand on regarde les taux de vaccination, là, il y a 82 % des étudiants des établissements collégiaux de la province qui ont reçu une première dose de vaccin. Et dans les universités, le taux grimpe à 86 %. Alors, c'est assez élevé. Ça, c'est pour une première dose. Il y a plus de la moitié des étudiants universitaires qui sont maintenant protégés adéquatement, c'est-à-dire qu'ils ont reçu deux doses. Et donc, on va garder le cap sur la rentrée en présentiel pour cet automne. C'est ce qu'on dit là au ministère de l'Enseignement supérieur. Pour l'instant, il n'est pas question de changer de projet ou en fait de dire, par exemple, vous restez à la maison ou restez la moitié du temps ou comme on avait fait un peu pendant la pandémie. Et dans les universités montréalaises, la proportion d'étudiants qui a reçu une première dose de vaccin oscille entre 81 et 87 %. Alors, c'est quand même assez élevé, ce qui permet d'aller de l'avant. Mais pendant ce temps, quand on regarde chez nos voisins européens, en France, entre autres, ben là-bas, ça va pas mieux. Là-bas, c'est le contraire. Là, la flambée Delta fait des ravages et l'état d'urgence sanitaire a été déclaré dans plusieurs régions de la France, même dans les Antilles françaises aussi. Là-bas, il y a eu hier là 27 934 cas qui ont été enregistrés hier, le chiffre le plus haut depuis la fin du mois d'avril. De sorte que là, on va aller de l'avant avec le passeport, le fameux passeport sanitaire, là. Alors, le passeport sanitaire va entrer en vigueur le 9 août. Le passeport est d'ores et déjà obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs, là, comme les cinémas, musées, etc. Mais là, dans les restaurants et les cafés-restaurants, les foires, les salons, les trains même sur longue distance, les vols intérieurs, ben ça va être élargi à eux. Les collégiens et les lycéens non vaccinés devraient suivre les cours à distance si un cas de COVID-19 était détecté dans leur classe. Alors, eux en sont rendus là. C'est ce qui a fait dire hier à Christian Dubé, allez vous faire vacciner parce qu'il y a une montée des cas. Là. Je pense qu'hier, on était à 133, si je me souviens bien. Alors, la veille, c'était 79. Alors, il y a une montée des cas et c'est beaucoup dû au fameux variant Delta. Et je vais terminer là-dessus parce que ça, c'est intéressant. Sylvain Charlebois, qui est chercheur en agroalimentaire à l'Université Dalhousie, à qui on parle fréquemment sur nos ondes, parle de l'espèce de paradoxe de la mer dans l'assiette des Québécois. Tu sais, au Québec, là, on produit beaucoup de fruits de mer quand même. Là. Tu sais, évidemment, il y a le homard, là, puis la crevette, qui sont sans doute les plus populaires. Mais les Québécois entretiennent, dit-il, une relation bizarre avec les produits de la mer. Selon les données de Nielsen, les consommateurs québécois achètent pour environ 334 millions de dollars de poissons et de fruits de mer par an sur un total de 865 millions au Canada. Ça veut dire que chez nous, là, c'est nous qui sommes les plus grands consommateurs au Québec de fruits de mer. C'est 38 % de toute la production au pays. Alors, c'est beaucoup. Le Québec exportait pour plus de 460 millions de dollars de produits de la pêche en gros, puis on importe 528 millions. C'est-à-dire qu'on produit des fruits de mer et des produits de la mer de très haute qualité, on les envoie ailleurs, on les vend à l'exportation et par la suite, on achète des produits, on importe des produits de milieu de gamme puis c'est ça qu'on mange. Alors, c'est assez étrange comme réaction. Donc, on envoie nos beaux produits à l'extérieur alors qu'on pourrait les manger nous autres mêmes puis on achète des produits plus bas de gamme, moins chers, peut-être parce qu'on est cheap. C'est peut-être ça. Je sais pas. Mais en tout cas, on aime ça, mais on n'aime pas ça payer trop cher, apparemment. Alors, justement, il y aurait peut-être, selon ce que dit M. Charlebois, une conscientisation à faire, de dire, bien là, si on commence à manger chez nous, à vouloir accepter de payer un petit peu plus cher, ça va à l'encontre de des politiques d'autonomie alimentaire là, que veut implanter le gouvernement de François Legault notamment. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va au Boston Seafood Show, puis là, on achète là-bas, on va négocier les prix, puis là, on ramène du stock moins cher, puis on vend nos bonnes affaires là-bas. C'est assez étrange comme comportement quand même. Il est 6h23.